débat de la radio CHGA-FM, organisé dans le cadre des élections provinciales. Au cours de la soirée, les candidats présents ici seront appelés à répondre à plusieurs questions touchant à divers enjeux locaux et régionaux. Des questions seront adressées à chacun des candidats à tour de rôle dans un ordre qui a été prédéterminé au hasard. Les candidats auront une minute pour répondre aux questions de l'animateur. Les citoyens auront l'occasion également de suggérer des questions à l'animateur en se rendant au fond de la salle derrière pour les gens qui sont ici présents du côté de la salle communautaire de Messine ou encore via notre page Facebook. Prenez note quand même, là, je voulais vous avertir que dans un souci de concision et de synthèse, les questions seront reformulées avant d'être adressées. Par la suite, chaque candidat va adresser deux questions aux participants de son choix. Et c'est en terminant que nous adresserons les quatre questions issues du public aux candidats, après quoi ils auront droit à une conclusion pour s'adresser une dernière fois au public avant que prenne fin le débat. Et je voulais mentionner qu'ici présent, aujourd'hui, on a Mme Joëlle Jamal du Parti conservateur du Québec, Mme Carol Green du Parti libéral du Québec, Mme Laura Avalos, candidate pour Québec solidaire, M. Raphaël Derry, candidat pour le Parti québécois, et M. Robert Bussière, candidat pour la Coalition Avenir Québec. Donc, et justement, je l'ai dit tout à l'heure, mais l'ordre des questions a été choisi au hasard. Et pour commencer, c'est Mme Joëlle Jamal qui aura le premier tour de réponse. Et parmi les sujets, on a une panoplie de sujets qui ont été choisis, qui sont en lien avec l'actualité, les enjeux locaux et régionaux, comme je disais. Et la première, c'est un enjeu dont on entend parler régulièrement. Ah oui, écoutez, avant de commencer avec les questions, on va vous laisser la chance de vous présenter à tour de rôle. Donc, je vais commencer avec Mme Joëlle Jamal. Vous allez voir ici, devant, il y a un chronomètre. Vous avez une minute pour pouvoir vous présenter au public. Mme Jamal, c'est à vous.
Oui, bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Joëlle Jamal. Je suis la candidate pour le Parti conservateur du Québec. Je suis aussi pharmacienne à temps plein. Je suis pharmacienne remplaçante dans la grande région de l'Outaouais. Donc, ça me fait plaisir d'être ici ce soir et merci pour l'invitation.
C'est maintenant à Mme Carol Green de s'adresser au public. Allez-y.
Merci bien. Je suis résidente de Chelsea pour au-delà de 30 ans. Originaire de la région de Montérégie, j'ai trois garçons, jeune homme maintenant, et mon mari est mort il y a au-delà de 25 ans. J'ai été mairesse de Chelsea 12 ans et préfète de la MRC des Collines pour 4 ans. Alors, j'ai travaillé beaucoup avec Madame Chantal Lamarche et avec le maire de Gatineau et les autres préfets. Alors, je connais bien les dossiers de la région. Et j'aimerais continuer de mettre mes expériences, mes connaissances au profit, au service de tous les citoyens et citoyennes de la région et du comté de Gatineau spécifiquement. Alors, merci.
Merci à vous. Et c'était maintenant le temps, Madame Laura Avalos, qui arrive à l'instant dans la salle. Donc, on va passer au prochain candidat pour la présentation. On reviendra Madame Avalos dans un instant. Donc, Monsieur Raphaël Derry, vous avez une minute pour vous présenter.
Merci beaucoup de l'invitation. Donc, je suis Raphaël Derry, je suis le directeur général de la Fédération intercoopérative en habitation d'Outaouais. Je suis avocat aussi de formation, je me passionne pour l'économie sociale, le mouvement coopératif. Je suis natif de Maniwaki, j'aime bien dire que j'ai Maniwaki d'inscrit sur mon passeport, mais aussi de tatouer sur le cœur. Il y a beaucoup d'indicateurs de dévitalisation qui sont inquiétants pour la vallée de la Gatineau, mais aussi beaucoup de sources d'espoir. Je trouve qu'il y a aussi des beaux projets, puis moi, j'aimerais ça pouvoir être le député de la vallée de la Gatineau pour pouvoir promouvoir ces projets-là, pour pouvoir faire en sorte que ça progresse, qu'on puisse les développer. Mettre la vallée de la Gatineau sur la carte, moi, je serais vraiment honoré de pouvoir être le député de la vallée de la Gatineau. Merci.
Merci, Monsieur Derry. Et on va poursuivre avec, donc, Robert Bussière, candidat pour la Coalition Avenir Québec.
Bonjour tout le monde, je suis Robert Bussière, député sortant et candidat pour la Coalition Avenir Québec. Je suis natif de la municipalité de Arthur Lake dans le Pontiac et je réside à La Pêche depuis une quarantaine d'années maintenant. Et j'ai été en politique, vous savez tous, depuis longtemps, donc 32 ans actuellement, toujours passionné. Et t'es maire de La Pêche 20 ans, t'es préfet de la MRC des Collines 8 ans. J'avais été conseiller municipal auparavant 8 ans aussi, et député pour le dernier mandat de 4 ans. Et j'aimerais bien continuer à vous servir parce que je connais très bien les besoins du comté et de l'Outaouais.
Merci, Monsieur Bussière. Et Madame Laura Vallos de Québec solidaire s'est jointe à nous avec un petit peu de retard, on lui en voudra pas trop. Mais c'est maintenant à vous, Madame Vallos, de vous présenter. Vous avez une minute pour le faire.
Oui, bonjour. Mon nom est Laura Vallos de Québec solidaire. Je suis une personne qui a plusieurs cultures et plusieurs chapeaux. Un de mes chapeaux, c'est ce que je suis faire, monoparentale de deux enfants, pré-ados et adolescents. J'ai aussi un chapeau d'activiste et de conseillère syndicale, un des syndicats de la fonction publique du Canada. Je suis aussi fille d'une famille de réfugiés salvadoriens du El Salvador et je suis trop connue dans ma communauté pour mon dynamisme et mon engagement réel pour dénoncer les injustices. Et finalement, je suis aussi une fille de personne aînée d'une grande famille. Et pour nous, dans notre culture, la famille, c'est tellement important et le sens de la communauté et de l'engagement. Donc, par tous ces chapeaux, je crois être une personne qui va défendre les intérêts des citoyens et citoyennes de la circonscription de Gatineau.
Merci, Madame Vallos. Et donc, on entend maintenant la période des questions aux candidats et la première personne à répondre à la question sera Monsieur Raphaël Derry du Parti québécois. Donc, la question va comme suit. C'est une question qui porte sur la pénurie de logements, un enjeu donc qui est très présent, dont on entend parler beaucoup, beaucoup depuis maintenant les dernières années et dont on entend de plus en plus parler. Donc, comme c'est le cas ailleurs en province, le manque de logements se fait sentir dans la région alors que plusieurs peinent à se loger, ce qui engendre son lot de défis pour la région. Quelle solution proposez-vous pour assurer que tous ceux qui désirent venir s'établir dans la région se trouvent un logement? Monsieur Derry, c'est à vous.
Ben, en fait, concrètement, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de m'impliquer en politique. C'est parce qu'il y avait une crise du logement et depuis les dernières années, il y a eu une absence de reconnaissance de cette crise-là. Le mois de juin dernier, c'est là où le gouvernement a décidé de reconnaître enfin cette réalité-là. Mais encore là, il y a des nuances, il y a des endroits où c'est pas reconnu, puis la ministre hésite. Pour ce qui est le Parti québécois, son objectif, c'est d'investir 3,2 milliards de dollars pour l'habitation coopérative et communautaire. Notre objectif, c'est de faire 25 000 unités sur les 5 prochaines années. Présentement, en Haut-Gatineau, on a 3 coopératives d'habitation seulement. On a la coop Le Pionnier, coop Le Domaine, puis on a aussi la coop du Vieux-Clocher à Sainte-Thérèse. Ça nous en prend davantage, c'est clair. On veut faire de la lutte à la pauvreté, on veut promouvoir la démocratie. Les coops sont excellentes pour ça. Ça permet à du monde de revitaliser les quartiers aussi. Les villes en ont soif, mais encore faut-il qu'on ait les moyens, puis le Parti québécois veut investir pour donner ces ambitions-là.
Merci, Monsieur Derry. Je vous rappelle, et on a réussi à le faire dans le temps, mais il y a une minute, hein, donc la minute c'est vite passé. Et ce qui va arriver si on dépasse la minute, là je rappelle, c'est pas ce qui est arrivé, mais la consigne, si on dépasse le temps, on va simplement fermer le micro, donc vous avez avantage à terminer dans le temps qu'on vous donne. Donc, on poursuit avec Madame Laura Vallos cette même question sur le logement. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour assurer que tous ceux qui désirent venir s'établir dans la région puissent le faire?
Oui, bien, définitivement, les gens qui nous suivent à Québec solidaire, ils savent qu'on est le parti pour le logement. Nous, ça fait 4 ans qu'on sonne l'alarme et on prend cet enjeu comme priorité pour notre campagne ici en Outaouais et spécifiquement pour la circonscription Gatineau. Concrètement, on a 4 dimensions pour avoir accès au logement. 1, entamer un chantier de 50 000 logements sociaux, concrètement 2 500 ici dans notre région. 2, on veut protéger les locataires. On veut vraiment mettre un contrôle sur les loyers pour rendre l'indice d'augmentation annuel du tribunal administratif du logement obligatoire pour tous les logements. C'est fini avec les augmentations abusives à 200 $ 300 $ Et on veut mettre un moratoire sur les rénovictions, qui c'est aussi inacceptable. 3e volet, on veut permettre aux jeunes familles d'accéder à la propriété avec notre projet propriétaire, devenir propriétaire ensemble. Et finalement, 4e dimension, on veut contrer la spéculation immobilière et contrôler les abus comme Airbnb, qui est très présent dans notre région.
Merci. Madame Carol Green, maintenant, donc, au niveau du logement, donc, quelles sont les solutions que vous proposez pour assurer que tous ceux qui le désirent puissent venir s'établir dans la région?
Le Parti libéral veut mettre de l'avant une stratégie du logement qui couvre l'accès à la propriété, le logement abordable et le logement social. Pour l'accès à la propriété, on va supprimer la taxe de bienvenue pour les acheteurs d'une première maison avec compensation complète pour les municipalités. Pour les logements abordables, on va moderniser le programme Accès Logis, taxer les propriétés vacantes appartenant à des non-résidents pour les ramener sur le marché locatif. encourager la conversion des espaces de bureau qui sont libérés par le travail hybride, exiger plus de transparence de la part des propriétaires lorsqu'ils affichent un logement à louer au-delà du coût du bail précédent. Pour le logement social, le Parti libéral veut construire 5 000 nouvelles unités sur une période de 10 ans. Merci.
Merci à vous. Et c'est maintenant au tour de Mme Joëlle Jamal. Donc, au niveau du logement, si les gens désirent s'établir dans la région et qui peinent à se trouver un logement, qu'est-ce que vous proposez pour régler cet enjeu-là?
Oui, ben en fait, on reconnaît que l'offre de logement actuellement, elle est vraiment insuffisante. La hausse des loyers aussi est très importante. Donc, nous, au Parti conservateur, en fait, on veut favoriser la réduction des coûts de construction de nouvelles unités de logement locatif pour faire des économies significatives, là. Puis pour ça, on veut, dans le fond, pour faire les économies, on veut déréglementer l'industrie de la construction, puis on veut réviser certaines dispositions du Code du bâtiment qui va restreindre inutilement la polyvalence des travailleurs sur les chantiers. Donc, nous, on croit qu'il faut plutôt investir dans les gens que investir dans le béton. Donc, on croit que le type d'habitation sociale, c'est vraiment pour aider des gens en situation avec des problèmes particuliers. Mais pour tous les autres, on veut vraiment les aider là dans le cadre de programmes existants d'allocation logement ou de supplément au loyer.
Monsieur Robert Bussière, donc, pour conclure cette première question sur le logement, quelles sont les solutions que vous proposez pour assurer à tous ceux qui le désirent de venir, de se trouver un logement pour s'établir dans la région?
Concernant les logements, après des années d'immobilisme du Parti libéral, notre gouvernement a signé une entente de 3,7 milliards avec le fédéral, et ce, sans condition, pour financer les logements sociaux. Pendant des années, les projets de logements sociaux et abordables n'ont pas été mis en chantier, mais aujourd'hui, c'est 15 000 logements construits ou en voie de l'être. Nous sommes toujours en action pour régler la pénurie d'offres de logements. Nous souhaitons construire 11 700 logements sociaux et abordables supplémentaires d'ici 2025 et de subventionner 7 200 logements supplémentaires avec le programme de supplément au loyer. C'est près de 2 milliards de dollars supplémentaires qui seront investis afin de régler la pénurie de logements au Québec.
Merci, Monsieur Bussière. Prochaine question, c'est Monsieur Raphaël Derry qui aura le premier tour pour répondre. Le manque de places en milieu de garde. Après avoir parlé du logement, parlons des places en garderie. Durant son mandat, entre autres, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a indiqué qu'il y avait suffisamment de places en garderie dans la région, selon le calcul utilisé par le gouvernement. Le son de cloche que nous entendons est différent et pointe davantage vers un manque de places dans la région au niveau des places en garderie. Croyez-vous qu'il y ait suffisamment de places dans la vallée de la Gatineau? Et sinon, que proposez-vous pour combler le manque à gagner?
Bien, concrètement, il y a clairement pas assez de place, on le sait. Partout au Québec, il y a une pénurie également là-dessus. Nous, on croit résolument au centre de la petite enfance au Québec. Qu'on se le dise, le Parti québécois, c'est le parti qui a mis sur pied les centres de la petite enfance en 1997. C'était avec Pauline Marois. On y croit parce qu'avec les CPE, les enfants ont accès à un développement, sont capables de se développer d'un point de vue affectif, mais aussi de commencer à apprendre les premiers pas de la vie, là, et on veut avoir un accès des CPE jusqu'à l'université. On veut permettre ça gratuitement, puis partout au Québec, y compris dans la vallée de la Gatineau. Et comment ça va se faire? Ben nous, on veut convertir toutes les places en milieu privé, puis on veut les convertir également en CPE. Donc ça, c'est notre projet, c'est un vaste chantier, mais on pense que ça va être très profitable, puis que ça va permettre aux jeunes de développer plus d'intérêt pour notamment rester à l'école, puis bref, le taux de diplomation pourrait même en bénéficier, là.
Madame Carol Green, donc, au niveau des places en garderie, est-ce que vous croyez donc qu'il y a suffisamment de places dans la vallée de la Gatineau, et sinon, qu'est-ce que vous proposez pour combler le manque à gagner?
Certainement, il n'y a pas assez de places. Et depuis les derniers 4 ans, la liste a augmenté très fortement de 10 000 enfants. En pleine pénurie de main-d'œuvre, nous n'avons pas le luxe de nous priver des femmes, des hommes qui ne peuvent retourner au travail parce qu'il n'y a pas de place en service de garde. Le Parti libéral fera en sorte que l'accès à un service de garde soit un droit, comme d'aller à l'école primaire. Sur une période de 5 ans, on va compléter le réseau de garde et avec un tarif unique pour tous de 8,70 par enfant, en privé comme en public. Dans les dernières années, nous avons vu les parents payer jusqu'à 1 400 pour les enfants qui dînent à l'école. Alors, pour le Parti libéral, les frais de service de garde sur l'heure du dîner dans les écoles primaires publiques doivent être abolis. Alors, le PLQ compensera les centres de services scolaires.
Merci. Et donc, c'est maintenant à Mme Laura Vallos de répondre à cette même question concernant les places en garderie. Qu'est-ce que vous proposez pour combler justement le manque à gagner?
Oui, en effet, c'est tellement important pour nous à Québec solidaire avoir accès à un service de garderie, surtout dans cette relance économique post-pandémique, pour que les femmes, surtout nous qui ont été le plus affectées par la crise sanitaire, on puisse retourner sur le marché du travail. Donc, concrètement, nous, à Québec solidaire, on pense qu'il faut régionaliser les services de la petite enfance par instaurer des micro-CPE. Par exemple, avoir des petites garderies de proximité dans des petites communautés, des lieux de travail, des centres communautaires. Donc, par exemple, ici même, comme dans ce centre communautaire à Missine. Puis, en attendant, on veut aussi offrir une prestation poupon. Ça, c'est une aide d'urgence en attendant que la famille attend pour une place en CPE. Donc, ça, c'est concrètement, c'est 170 $ par mois pour pendant que l'enfant a 12 à 18 mois. Donc, on veut vraiment aider aussi à convertir les garderies actuelles qui voudraient devenir des CPE. Donc, et quatrièmement, en haussant les salaires des éducatrices pour qu'elles reviennent dans le réseau public. Voilà nos quatre mesures pour contrer la pénurie en services de garderie.
Monsieur Robert Bussière, donc, au niveau des places en garderie, croyez-vous qu'il y a suffisamment de places dans la vallée de la Gatineau? Et sinon, qu'est-ce que vous proposez pour combler le manque à gagner?
Concernant la question sur l'accueil des plus petits, 2781 places subventionnées seront ajoutées d'ici 2025 en Outaouais. On a ensuite lancé le grand chantier pour les familles avec comme objectif 37 000 nouvelles places d'ici 2024-25 au Québec. On s'engage à subventionner toutes les places non subventionnées pour que les parents de la circonscription de Gatineau puissent tous avoir accès à des places à 8,70. Ici, dans les MRC de la Vallée, le CPE, Réseau du Petit Pas, a reçu récemment l'autorisation du ministère de la Famille pour la construction d'une nouvelle installation de 60 places subventionnées.
Merci, Monsieur Bussière. Et c'est maintenant à Joël Jamal de clore sur cette question du manque de places en milieu de garde. Donc, quelles sont les solutions proposées par le Parti conservateur du Québec à ce niveau?
Oui, ben en fait, j'ai parlé avec beaucoup de parents. Est-ce qu'ils les inquiètent? C'est vraiment les longues listes d'attente pour les CPE. Donc, nous, notre but, c'est d'aider les gens qui sont sur des listes d'attente à trouver une alternative. Donc, on veut permettre à toute personne qualifiée d'ouvrir une garderie en se conformant aux normes gouvernementales, à condition qu'elle soit en mesure d'autofinancer le service offert. Les listes d'attente, ainsi, vont disparaître rapidement, tandis que la concurrence entre les garderies permettra aux parents d'avoir plus de choix quant aux heures de service et quant à la nature des services offert. On a juste à penser, par exemple, aux parents avec des horaires atypiques, là, qui travaillent de nuit ou qui ont des shifts changeants, des cartes de travail changeants. Donc, on veut verser d'ici la fin d'un premier mandat un bon de 200 $ imposable par semaine par enfant, admissible pour les frais de garderie, pour donner justement le choix aux parents de choisir le milieu de garde, CPE, privé ou garderie familiale.
Merci à vous, Madame Jamal. Donc, laissons place maintenant à la pénurie de main-d'œuvre. Nos jeunes doivent quitter vers les grands centres dans le but de poursuivre leurs études postsecondaires. Dans bien des cas, les jeunes se trouveront un emploi en ville. De plus, de nombreux travailleurs ont pris le chemin de la retraite au cours des 10 dernières années. D'après vous, comment retrouver un équilibre entre les besoins en emploi et le nombre de travailleurs sur le marché du travail? Et c'est Laura Avalos qui a le premier droit de réponse.
Oui. Donc, nous, à Québec solidaire, on veut vraiment régler la pénurie de main-d'œuvre. Puis, pour nous, ça passe par deux grands aspects. Un, c'est par le respect des travailleurs et travailleuses. Et deuxièmement, par reconnaître la richesse qu'apportent nos immigrants à notre société, comme ma famille, par exemple, qui est arrivée du El Salvador il y a 40 ans. Donc, pour respecter et valoriser nos travailleurs et nos travailleuses, on veut vraiment humaniser le travail et, par exemple, permettre 4 semaines de vacances pour tous les travailleurs d'avoir un répit. On veut aussi augmenter le salaire minimum. Ce n'est plus assez 14,25 $. C'est ridicule. On doit absolument monter à 18 $ de façon immédiate. Quatre, on veut aussi combler On a des gens qui sont déjà ici au Canada, au Québec, et qui nous ont aidés durant la pandémie. Donc, tous ces anges gardiens, c'est le temps de reconnaître et de régulariser leur statut. Ils ne veulent plus que personne d'autre contribuer et payer des impôts et des taxes pour notre société. Finalement, on veut aussi, par l'immigration, bien les intégrer et reconnaître leur formation à l'étranger. Donc, pour nous, c'est par être inclusif et le respect des travailleurs qu'on va régler la pénurie.
Monsieur Raphaël Derry, donc, la question est à vous. Comment retrouver cet équilibre entre les besoins en emploi et le nombre de travailleurs sur le marché du travail?
Là, ici, on a segmenté les sujets, hein. On a mis logement et offre en service de garde, puis on a dit main-d'œuvre. La réalité, quand même, c'est que tout est dans tout. Alors, quand on est capable d'avoir du logement, on est capable aussi d'héberger du monde qui vont venir travailler ici. Puis quand on est capable d'avoir des services de garde de qualité, on est capable de permettre à des pères puis à des mères de retourner sur le marché du travail puis d'y rester. Alors, c'est sûr que je veux pas vous parler de tout ça tout le temps, revenir au logement puis au service de garde, mais je veux qu'on se rappelle que quand on fait rien pour ces deux sujets-là, bien, ça a des conséquences sur la pénurie de la main-d'œuvre. Puis quand on a de la main-d'œuvre, ça serait le fun qu'on la garde. Moi, je vous fais référence ici, c'est pas dans les thèmes, là, mais je fais référence à la Sopfeu, où on avait une belle main-d'œuvre ici, puis on l'a perdue, on l'a échappée au siège social qui est rendu en Abitibi maintenant. Puis ça, je trouve ça déplorable. Comme député, je pense que notre travail, c'est préserver nos emplois puis nos sièges sociaux quand on en a dans la vallée de la Gatineau.
Monsieur, ça tombe bien quand même, Monsieur Robert Bussière, c'est à vous de répondre. Donc, sur la question des besoins d'emploi et du nombre de travailleurs sur le marché, une équation est difficile de ces temps-ci, là.
Sur la question de main-d'œuvre, le prochain gouvernement procédera à une modernisation de la formation professionnelle et développera une offre élargie et renouvelée de formation professionnelle à distance. Nous voulons augmenter de 35 % le nombre de diplômés en formation professionnelle dans les secteurs manufacturiers, technologiques, de services publics et de construction. Ce sont des emplois importants dans Gatineau. Des programmes courts accompagnés de bourses de 2 000 $ seront également créés pour venir combler des postes dans des secteurs majeurs de l'économie tels que l'enseignement, les formations en génie, technologie de l'information, santé et services sociaux, services de garde éducatifs à l'enfance, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires. Un gouvernement de la CAQ viendra appuyer financièrement les personnes en réinsertion à l'emploi qui souhaitent intégrer un programme de formation
court. Tout le temps qu'on avait, malheureusement, c'est ça. Une minute, c'est très, très rapide. Madame Joëlle Jamal, donc, on poursuit sur cette question de la pénurie de main-d'œuvre. Comment retrouver cet équilibre entre les besoins en emploi et les travailleurs sur le marché?
Oui, ben en fait, la pénurie de main-d'œuvre, on la vit aussi en pharmacie. Là, ça affecte beaucoup notre secteur. Ce qu'on constate, c'est que il n'y a pas d'incitatif actuellement pour travailler plus. Donc, plus qu'on travaille, plus que on paye d'impôts. Donc, il y a différents problèmes. On voit que, par exemple, les étudiants qui reçoivent des prêts et des bourses sont pénalisés s'ils travaillent. Même chose, les gens à la retraite qui veulent faire quelques jours par semaine sont aussi pénalisés là quand ils retournent au travail. Alors, au Parti conservateur, on veut baisser les impôts à cet égard-là et on veut pas que les gens soient pénalisés. Donc, comme par exemple la baisse d'impôts, le premier palier passe de 15 000 à 20 000 $. Puis au secondaire, un gouvernement conservateur veut revaloriser aussi la formation professionnelle. On veut établir aussi plusieurs types de diplômes professionnels pour les jeunes.
Merci beaucoup. Et c'est Carol Green donc qui clôt cette question sur la main-d'œuvre. Comment régler cet enjeu-là?
Merci. Le Parti libéral va favoriser le retour de travailleurs expérimentés en prévoyant un congé de cotisation au régime de rente du Québec pour les 62 ans et plus. Et on va doubler l'exemption des impôts pour les personnes de 65 ans et plus pour le faire passer de 15 à 30 000. En immigration, on veut accélérer le processus d'obtention des certificats de sélection du Québec pour les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants étrangers. On veut accélérer la reconnaissance des diplômes des travailleurs provenant d'une autre province ou d'un autre pays. En santé, c'est très important. On veut attirer et retenir les infirmières et les autres services domaines de santé. Alors, en Outaouais, les salaires seraient paritaires avec ceux offerts en Ontario. puis on veut changer.
Merci beaucoup. Prochain thème maintenant. J'appellerais plus ça un sujet, parce que c'est des thèmes... Comment aider les familles qui sont dans le besoin concrètement? Parce que, bon, il y a plusieurs qui se questionnent. Moi, le premier, à savoir comment les familles à faible revenu ou qui vivent sous le seuil de pauvreté font pour arriver à la fin du mois en raison de l'augmentation du coût de la vie. Ici, on parle du loyer, panier d'épicerie, les logements, tout ce qui touche. Finalement, toutes nos dépenses ont augmenté beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour soutenir ces familles pour qui les finances sont devenues un véritable casse-tête depuis quelques années maintenant? Madame Avalos, c'est à vous le premier droit de parole.
Oui, bien définitivement, nous à Québec solidaire, on tient à cœur cette situation et on veut, c'est par trois volets. Un, avoir un revenu viable. Deux, avoir un logement qui nous laisse avec un peu d'argent pour économiser puis vivre, pas juste survivre. Et trois, avoir un système de santé qui nous coûte pas un bras, une jambe pour rester en santé. Donc, un, par notre volet viable, une vie viable, on veut augmenter le salaire minimum, comme j'ai déjà mentionné. On veut aussi baisser les taxes sur les produits essentiels. On veut aussi avoir un projet pilote du revenu minimum garanti qui a fait ses preuves dans plusieurs régions du monde. Ensuite, on veut faire une bonification à l'aide sociale et on veut réduire le coût du transport en commun. Maintenant, en parlant du logement, j'ai déjà mentionné toutes les mesures que nous, à Québec solidaire, on veut pour pas que l'augmentation du loyer soit abusif. Puis trois, en santé, ben on veut faire une assurance dentaire pour que le soin de nos dents, ce n'est pas un luxe, c'est un droit fondamental. Et finalement, par Pharma Québec, pour que nos médicaments coûtent beaucoup moins cher ou soient gratuits.
Merci beaucoup. C'est maintenant à Joël Jamal que la question s'adresse sur justement ce que les propositions pour soutenir ces familles pour qui les finances sont devenues un casse-tête au cours des dernières années.
Oui, mais en fait, Monsieur Duhaime demande depuis déjà plusieurs semaines la suspension de taxes sur l'essence pour aider les familles dans le besoin. Nous, on croit que c'est maintenant que les familles ont besoin d'un break, là, pas attendre après les élections, pas attendre une année ou deux. Donc, on veut vraiment que les familles puissent bénéficier là d'un break immédiatement. On veut aussi maintenir intégralement le programme d'allocation familiale et le bonifier annuellement en fonction du coût de la vie et de l'inflation. On veut aussi offrir un crédit supplémentaire aux ménages qui donnent naissance ou adoptent plus de deux enfants. On veut bonifier substantiellement le crédit d'impôt pour proches aidants jusqu'à hauteur des coûts que l'État devrait prendre en charge si la personne était hébergée en institution. Donc, on est conscient que les familles du Québec là payent beaucoup trop d'impôts.
Monsieur Bussière, maintenant, donc, qu'est-ce qu'on propose pour aider ces familles qui peinent à joindre les deux bouts?
Écoutez, premièrement, on a remis 500 $ dernièrement et on va remettre d'autres argent à notre tour. On va baisser les impôts d'un pour cent. Et aussi, sur la question... On veut continuer à aider les familles tout en tentant de réduire les différentes excusez-moi.
C'est bon.
Je vais passer.
Parfait. Maintenant, Madame Carol Green, donc, qu'est-ce qu'on fait pour aider les familles donc qui peinent à joindre les deux bouts?
Merci. Oui, l'inflation augmente partout. Et au Parti libéral, nous considérons que l'État a la responsabilité d'aider les Québécoises et Québécois à y faire face. Alors, il faut agir efficacement pour avoir un impact maximal sur les familles. Nous baisserons les impôts de la classe moyenne, nous gèlerons les taxes d'électricité et nous cesserons le prélèvement de la taxe de vente sur la facture d'électricité. Et enlèverons la TVQ sur les produits de première nécessité. Nous travaillerons à assurer un soutien accru, prévisible aux organismes communautaires proches aidants et un meilleur financement pour les organismes communautaires qui œuvrent dans la santé mentale. On veut offrir des services en psychothérapie gratuites 15 fois par année. Ça ne devrait pas avoir une différence entre le système privé et public. Merci.
Monsieur Raphaël Derry, dernier pour conclure cette portion. Donc, qu'est-ce qu'on propose pour soutenir ces familles pour qui les finances sont devenues un casse-tête au cours des dernières années?
La crise inflationniste frappe fort. On l'a observé, c'était 7 % d'inflation au mois d'août, 8 % au mois de juin. On a le taux d'intérêt qui augmente aussi, donc c'est pas juste les locataires qui vont souffrir. Les propriétaires vont aussi payer la note de ça. Ce qu'on veut faire au Parti québécois, c'est verser une allocation qui peut aller jusqu'à 1 200 $ par ménage pour le temps de la période de la crise de l'inflation. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, on défend le filet social québécois. On croit en la social-démocratie, puis ça veut dire qu'on veut maintenir des services publics accessibles, gratuits pour tout le monde. Et quand j'entends parler de baisse d'impôts, ça me sidère. Je peux pas croire qu'on parle de baisse d'impôts au moment où on a des crises dans le secteur public. On a de la difficulté à avoir des travailleurs sociaux pour avoir accès à des services en santé mentale. On a de la difficulté à avoir accès à des chirurgiens aussi. Il est le temps là, qu'on mette de côté ces projets-là puis qu'on soit responsable avec les finances publiques.
Donc, prochain point maintenant, l'environnement qui est aussi là un des enjeux importants de cette décennie et probablement des prochaines. Les lacs, les rivières, les forêts et tout ce qui compose la nature qui nous entoure représente une richesse inestimable pour le Québec et également pour la vallée de la Gatineau qui mise beaucoup d'efforts sur ce secteur d'activité pour développer son offre touristique. D'entrée de jeu, croyez-vous que le Québec en fait suffisamment en matière de protection de l'environnement et quelle est votre vision à ce niveau? Et selon l'ordre établi à l'avance, c'est Madame Laura Vallos qui a encore le premier droit de réponse à cette question.
Ben définitivement, on croit que ça n'a pas été fait. Il y a eu un échec par rapport de l'inaction du gouvernement actuel. Et nous, à Québec solidaire, on veut prendre le retard qui a été causé par cette inaction, autant du Parti libéral que par la CAQ. Donc, nous, on offre ce qu'on appelle la vision 2030. C'est un plan chiffré, ambitieux et crédible pour que le Québec devienne carboneutre d'ici 2050. Notre plan, c'est de permettre la réduction de 55 % des GES d'ici 2020. Puis ça a été vérifié par 8 experts. Les gens savent que c'est important, c'est l'élection de la dernière chance, il faut prioriser notre environnement. Donc, on veut, par exemple, motiver les gens à acheter, à faire cette transition à l'auto électrique, et on peut au Québec, on a cette ressource, on a la technologie. On veut aussi avoir des grands chantiers de notre génération. Je suis tellement fière, Manon Mancé, notre co-porte-parole, était en fin de semaine ici dans la région pour annoncer Auto-Québec. Pardon, Tramway Québec et Autobus Québec pour avoir, justement, réduire l'utilisation des autos au gaz.
Merci, Mme Avalos. Mme Green, maintenant, donc, est-ce qu'on en fait suffisamment en matière de protection de l'environnement et quelle est votre vision à ce niveau?
C'est un grand sujet, mais le Parti libéral propose un plan qu'on appelle ECHO, ça joint écologie et économie, pour développer la production de l'hydrogène vert et un meilleur usage de nos ressources hydroélectriques et pour payer nos programmes comme le Parti québécois nous lance le défi. On augmentera l'électrification des transports en commun avec un financement adéquat au réseau de transport public et je pense en milieu rural surtout. L'accès aux transports en commun sera gratuit pour les étudiants et les aînés. Un de nos objectifs est de réduire par ces mesures nos émissions de gaz à effet de serre de 45 % ici 2030. Et aussi, on veut un COP Québec pour définir de façon cohérente les actions à mettre en place pour atteindre nos objectifs, alors basés sur les sciences.
Monsieur Robert Bussière, donc, sur cette question, est-ce qu'on en fait suffisamment en matière de protection de l'environnement? On voudrait connaître votre vision à ce niveau-là.
Sur la question de l'environnement, pour réduire nos émissions de GES, il faut travailler à électrifier nos transports. On a prévu 56 milliards d'investissements pour des projets de transport collectif sur 10 ans. C'est sans précédent, mais nécessaire si on veut offrir de bons services et convaincre plus de Québécois et Québécoises à les utiliser. On est aussi le gouvernement qui en a fait le plus pour l'environnement, notamment avec l'électrification des transports et le fait qu'on va devenir la batterie de l'Amérique du Nord pour être carboneutre d'ici 2050. On va le faire en protégeant aussi nos cours d'eau grâce au fonds bleu qu'on s'engage à mettre en place pour que les lacs et les rivières de la circonscription de Gatineau puissent être mieux protégés.
Merci, M. Bussière. Madame Joëlle Jamal, maintenant, concernant cette question sur l'environnement, en fait-on suffisamment? Quelle est votre vision à ce niveau-là?
Oui, ben c'est sûr qu'on peut en faire plus. Hein. On fait pas assez pour l'environnement. J'entendais l'autre jour Monsieur Legault dire ou proposer plutôt là qu'il veut construire des grands barrages hydroélectriques. On trouve que c'est une idée là. Franchement, ça va prendre près de 20 ans là pour être achevé. Ça va nous coûter. Il y avait une évaluation du coût d'environ 15 milliards de dollars si je me rappelle bien. Donc, nous, au Parti conservateur du Québec, on a une stratégie pour offrir aux Québécois du gaz naturel à bas prix. Donc, on veut exploiter nos ressources naturelles en gaz et collaborer avec nos voisins canadiens là pour acheter ce que nous ne produirons pas encore. Puis, on veut vraiment avoir comme solution puis la volonté de convertir les foyers domestiques pour qu'ils puissent bénéficier du chauffage au gaz naturel plutôt que l'électricité. On sait que les besoins d'électricité vont être grandissants là avec les véhicules électriques.
Et Monsieur Derry du Parti québécois, donc en matière d'environnement, est-ce qu'on en fait suffisamment? Quelle est votre vision à ce niveau-là?
Quand j'étais petit à Maniwaki, on me parlait beaucoup des grandes inondations de 1974, puis ça c'était le grand moment un peu passé là. Mais aujourd'hui, les grandes inondations, c'est plus 1974, c'est 2019, c'est 2022, puis la crise climatique, ça va être une de ses conséquences. On l'a vécu dans le sud à Gatineau aussi. Alors, c'est important qu'on prenne ça au sérieux. Puis, nous, un des engagements qu'on a fait, on a utilisé une firme experte, la même que Québec solidaire d'ailleurs, mais pour valider le plan qu'on avait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est un projet qui est ambitieux, puis notre projet, c'est en particulier, en tout cas, on se base beaucoup sur le secteur des transports. On veut miser plutôt sur le transport collectif, puis on veut l'adapter aussi en milieu rural. Mais le transport collectif, c'est possible de faire des projets en milieu rural aussi. Donc, on veut pouvoir le faire avec la passe climat. Je vous invite à vérifier ça, qu'est-ce qu'il y en est. Puis l'environnement, c'est aussi le secteur minier. On n'est pas contre le secteur minier, mais il faut le baliser, là.
Sinon, et puis là, écoutez, je me rends compte que le hasard fait les choses ainsi. C'est encore Madame Laura Vallos qui a encore le droit de parole pour ce mais c'est encore le hasard. Hein, je vous rappelle qui a fait les choses ainsi. Donc, Madame Vallos, maintenant la question des services de proximité. Le Conseil des maires de la vallée de la Gatineau est unanime lorsqu'il est question de services de proximité. Pardon? Non, il n'y a pas d'ordre, non. Écoutez, il y a peut-être une confusion parce que j'avais soumis les sujets aux candidats, mais il n'y a pas d'ordre par rapport à ça. Donc, la question est la suivante par rapport aux services de proximité. Les maires sont d'avis que la population devrait avoir accès à une gamme élargie de services de proximité. Si la région espère attirer de nouveaux résidents, contrer le marasme économique également, d'après vous, donc, quels sont les services qui devraient être offerts ici, même sur le territoire, et qui relèvent du gouvernement du Québec, Madame Vallos?
Oui, définitivement. Nous, à Québec solidaire, on croit vraiment que c'est important d'avoir des services, tant en santé que des services sociaux de proximité. Et nous, c'est exactement ça qu'on veut parler dans cette campagne. C'est tellement excitant de vous annoncer qu'on a un engagement ferme de renforcer notre système public et nos services de proximité par les CLSC. On a déjà plusieurs CLSC, 70 pour être exact, partout sur le territoire et ici dans la vallée de la Gatineau. Donc, pourquoi revaloriser les CLSC? Parce qu'on veut que ça soit au cœur de nos soins de service, par exemple, ramener les professionnels, tant que les nutritionnistes, les psychothérapeutes, les naturopathes, et que ce soit ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on veut vraiment que ça va aider aussi à désengorger nos urgences et faire face aux bris de service comme on a vu plusieurs fois cet été à Maniwaki. Donc, on veut vraiment aussi avoir plus de soins à domicile, assurer que les gens puissent rester le plus longtemps possible chez eux. Donc, pour nous, ça, c'est très important.
Joël Jamal, maintenant, sur cette question des services de proximité, quels sont, d'après vous, là, les services qui devraient être offerts ici même sur le territoire et qui relèvent du gouvernement du Québec?
En fait, le mot-clé, c'est décentraliser. Donc, nous, on veut décentraliser le système de santé pour que les décisions soient vraiment prises là au niveau local et régional plutôt que central. Donc, on veut aussi vraiment là, couper dans le gras des dépenses gouvernementales. C'est ça qui va aider à financer, en fait, nos baisses d'impôts. On veut donc que les organismes communautaires soient beaucoup plus plus mieux financés pour répondre aux besoins de leur population.
Madame Carol Green, maintenant donc sur cette question des services de proximité, quels sont ceux qui devraient être offerts là, et qui relèvent du gouvernement et qui devraient, d'après vous, être essentiels ici dans la région?
Je crois que c'est nécessaire pour avoir logement, transport. On a parlé des services de garde, mais pour moi, les services de proximité que je vois, c'est nécessaire que les commerces, les services restent dans la municipalité, tant publique que privée, et qui sont accessibles par tous. Alors, on pense à un dépanneur, une caisse populaire, la station d'essence, l'école. Mais il y a des modèles innovants pour peut-être un partage de bâtiments. Alors, je pense qu'il faut changer notre façon de voir les choses et offrir les services à nos citoyens et citoyennes. Je pense à des centres culturels. Il faut qu'il y ait des endroits pour limiter l'isolement social et améliorer la qualité de vie de tout le monde. Centres communautaires, transports actifs, les personnes de tous les âges, on veut qu'ils restent actifs.
Donc, quels sont les services qui devraient être offerts ici même sur le territoire et qui relèvent du gouvernement du Québec? La question est maintenant à M. Raphaël Derry.
En fait, on se rappellera de la réforme Barrette avec le précédent gouvernement libéral, comment ça a fait mal à la vallée de la Gatineau. Ça n'a pas été étranger, je pense, à l'élection, à la défaite du Parti libéral aux dernières élections ici dans le comté. Ça, c'est exactement ce qu'on veut éviter au Parti québécois, c'est la centralisation. Les gouvernements ont tendance à vouloir centraliser pour faire des économies, mais en même temps, c'est les services aux citoyens qui soufflent plus par la suite. Je rencontrais la préfète, Mme Lamarche, qui me parlait de Service Québec. Elle insiste pour ramener Service Québec à Maniwaki. Moi, j'appuie totalement et sans réserve ce type d'initiative-là parce que ça va permettre au monde de Maniwaki, particulièrement les personnes les plus vulnérables, de faire affaire avec quelqu'un physiquement sur place plutôt que d'avoir affaire avec de la correspondance. Elle me parlait même de gens qu'il fallait qu'ils remplissent des formulaires alors qu'ils avaient des problèmes, ils étaient des analphabètes fonctionnels. Ça marche pas, la centralisation, faut décentraliser.
Et c'est M. Robert Bussière maintenant qui clôt cette question sur les services de proximité. À quoi on peut s'attendre donc dans la vallée de la Gatineau à ce niveau-là?
Chose très importante qu'on est en voie de compléter, vous savez, notre monde est en voie de changer. L'Internet haute vitesse va aider grandement dans les régions. De même que ce qu'on a l'intention de mettre en place prochainement, c'est la couverture cellulaire. Tout ça, là, ces deux items-là sont très importants pour nos régions. Ça va aider à leur développement. Ça fait partie des services de proximité de plus en plus et un grand besoin. Bien sûr, des services de santé et, comme vous le savez, on est en voie de décentraliser. Contrairement au Parti libéral, dans le passé, qui ont fait perdre là, globalement dans toute cette centralisation plus de 300 emplois dans la région, puis c'est pas moi qui le dis, là, ça vient des gens d'ici, là. Plus de 300 emplois qui ont été perdus, qui ont été centralisés vers l'urbain. Nous, on est en voie de décentraliser. Donc, c'est, puis vous savez, bien sûr, ça prend du service de transport collectif, ça prend bien sûr des bonnes écoles, donc on est en voie d'investir.
Merci, M. Bussière. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Je rappelle au public qui nous écoute là sur toutes nos plateformes, tous les moyens de diffusion, si vous voulez adresser des questions, toujours possible de le faire via notre page Facebook ou encore ici derrière pour les gens qui sont ici présents à la salle à Messine. Dernière question de ce bloc de questions sur différents thèmes et enjeux. Investissement routier, donc c'est comme ça qu'on va clore cette portion du débat. S'il y a bien une demande qui ne cesse d'être adressée par tous les acteurs, tous les citoyens, on en entend parler quotidiennement, c'est l'état du réseau routier qui est décrié depuis de nombreuses années. On parle de millions de dollars qui devront être consacrés pour remettre à niveau le réseau routier provincial et municipal dans la vallée de la Gatineau. À petite échelle, c'est des millions de dollars. Qu'est-ce que votre parti s'engage à faire à ce niveau, Monsieur Raphaël Derry?
En fait, le Parti québécois est régionaliste, donc on voit, il y a beaucoup de lacunes dans tous les investissements publics pour la région de l'Outaouais. On doit récupérer notre part du gâteau, ou notre butin, comme le disait autrefois Maurice Duplessis. Je devrais pas citer Maurice Duplessis. Mais ceci dit, on a besoin de récupérer ça. Puis la 105, je trouve que c'est une illustration de comment on passe toujours en arrière. on est jamais prioritaire. Moi, j'ai souvenir quand on allait au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la 175 là, qui est devenue une autoroute puis qui est splendide. Puis pendant ce temps-là, ben notre axe routier, la 105, elle est en décrépitude. C'est difficilement carrossable, pour reprendre l'expression du maire de Gracefield. Alors, l'objectif, c'est pas d'attendre en 2026, c'est de pouvoir rapatrier ça, de faire un combat auprès de Québec pour pouvoir s'assurer que la 105 puisse être réparée au plus sacrant, puis décentraliser le ministère des Transports aussi. Ils ont de la difficulté à rejoindre les gens du ministère des Transports, puis les municipalités devraient pouvoir communiquer.
Merci, Monsieur Derry. Qu'est-ce que votre parti s'engage à faire au niveau des investissements au niveau du réseau routier provincial et municipal dans la vallée de la Gatineau, Madame Green?
Merci. Je pense qu'on est tous d'accord que la route 105 a besoin d'être pas juste repavée, mais refaite, parce que c'est la fondation, c'est pas juste une autre couche. Et le patchage qu'on voit, c'est même pire que la route avant. Et ça, c'est un manque de respect pour les citoyens, citoyennes du comté de Gatineau d'avoir un tel état de route. Et le sondage de la CAA vient de sortir. La route 105, c'est une des pires 10 routes au Québec. Alors, il faut agir, puis il faut agir maintenant. Le prolongement de l'autoroute 5 aussi, au niveau de Wakefield, la pêche, doit être faite. Ça fait 4 ans que c'est en attente. Alors, il faut aller de l'avant. Le repavage de la route Maniwaki-Témiscamingue, et aussi je parle de le pont Alonzo Wright, parce que c'était prévu pour
c'est tout le temps qu'on avait, hein. C'est ingrat le temps. Joël Jamal, donc, au niveau des investissements routiers, quelle est la position de votre parti à ce niveau?
Oui, absolument. Donc, je peux juste être d'accord avec mes collègues ici, là. Donc, pour la réfection de la route 105, pour l'élargissement du pont Alonzo Wright, mais aussi j'entends des citoyens dire que faudrait faire quelque chose avec le viaduc surmonté paiement là qui surplombe la 50. Comme vous l'avez mentionné, Monsieur Parent, ça va coûter très très cher ces grands projets là. Puis on a une étude indépendante menée par KPMG qui conclut que les municipalités recevraient de 500 000 $ à 1 million $ par année, et le gouvernement récolterait jusqu'à 300 millions $ par année si on produit notre gaz naturel au Québec. Donc, si on veut accomplir des grands projets, là, il faut trouver des solutions pour aller chercher, créer de la richesse et chercher cet argent-là.
Madame Avalos de Québec solidaire, qu'est-ce que votre parti s'engage à faire pour remettre à niveau le réseau routier provincial et municipal de la vallée de la Gatineau?
Oui, je sais que on parle de la route, mais vraiment, on est rendu en 2022, mes chers concitoyens, concitoyennes. Il faut faire une décision, faut faire un choix de société. Est-ce qu'on veut la vision de 1990, plus de ponts, plus de routes, plus d'auto, ou une nouvelle vision qui est vraiment de favoriser et le transport collectif et diminuer l'usage des autos? Je sais que c'est très difficile, même moi, pour me rendre ici, tout le monde a dû prendre nos autos pour se rendre ici. Alors, c'est pour ça que je veux vraiment mettre l'emphase sur ce temps que j'ai pour vraiment convaincre de voter Québec solidaire pour une révolution de nos transports, parce que c'est les autos le plus grand émission de gaz à effet de serre. Et j'ai parlé de Québec Rail, j'ai parlé de Québec Bus. Donc, nous, ça serait 4000 routes de couverture par un service d'autobus public qui viendrait compléter le réseau de Québec Rail, surtout ici dans les régions, et favoriser une application qui s'appellerait système d'autopartage, une application pour promouvoir le covoiturage qui va aider nos jeunes puis les travailleurs à se mobiliser.
Monsieur Robert Bussière, que j'entendais avant le débat dire qu'il avait fait 150 000 km avec son camion, donc il doit les avoir traversés souvent, les routes de la vallée de la Gatineau. Je vous poserai pas la question à savoir comment vous les trouvez, mais qu'est-ce que vous proposez pour les remettre en état, parce que tout le monde juge que c'est inacceptable.
Et vous avez entièrement raison, hein. Surtout la 105 est déplorable. Mais vous savez que cette route-là, malheureusement, ne s'est pas détériorée au point qu'elle est rendue aujourd'hui uniquement en 4 ans. C'est donc que les libéraux l'ont abandonné il y a très longtemps. Nous, ça fait 4 ans qu'on est arrivé. Et bien sûr, je me suis engagé, et d'ailleurs, on a fait une annonce il n'y a pas si longtemps, d'une réfection de 87 kilomètres dans une période de 5 ans. Donc, à la fin du prochain mandat, le 87 kilomètres sera terminé et la route 105 sera grandement améliorée. Bien sûr qu'il y a des grands besoins partout. Vous savez qu'il y a 720 kilomètres de route provinciales uniquement de ce comté. Je les ai fait. Donc, nous travaillerons également à compléter le raccordement de l'autoroute 5 à la route 105. Et enfin, nous allons réaliser l'élargissement du pont à Longeau, qui n'est pas nécessairement dans la région, mais plutôt dans le sud.
Donc, maintenant, c'est une portion que j'affectionne particulièrement de nos débats ici à CHGA, c'est les questions entre candidats. Donc, c'est une occasion où, parce que vous vous connaissez, c'est pas le premier débat que vous faites ensemble, vous croisez dans la campagne électorale. C'est intéressant de voir à qui on adresse nos questions, et c'est justement, chaque candidat aura deux occasions de poser donc une question par occasion au candidat de son choix. Donc, c'est vraiment à vous de décider. Et l'ordre a voulu que ce soit monsieur. Et vous avez 30 secondes. Essayez de poser votre question de façon concise. Là, 30 secondes, là, on vise, c'est raisonnable. Et par la suite, le candidat a une minute pour répondre s'il est visé par la question. La première personne à qui a le droit d'adresser une question, c'est monsieur Robert Bussière. Vous pouvez adresser la question au candidat de votre choix.
Oui. Madame Green. La loi 96, vous avez l'intention de l'abolir, ce que vous avez dit hier soir. Est-ce que vous croyez à la protection de la langue?
Absolument. Le Parti libéral veut protéger la langue française. C'est au cœur de notre spécificité et on trouve un point d'ancrage pour le maintien d'une société juste, progressiste, prospère et inclusive. Moi, je préfère de célébrer notre diversité et valoriser ses richesses. Alors, nous allons renforcer l'accompagnement des immigrants dans l'apprentissage du français en offrant les services de francisation permanents, diversifiés et accessibles partout au Québec. C'est d'intégrer les immigrants, les réfugiés, les anglophones dans la société québécoise avec des leçons, des cours. Alors, moi, j'ai appris mon français en école secondaire. Je suis tellement fière d'avoir deux langues, deux cultures, et je trouve que ma vie est beaucoup plus riche avec la possibilité de parler.
Merci. Madame Laura Vallos, donc vous avez l'occasion de poser une question au candidat de votre choix, ou candidate.
Mm-hmm. Moi, c'est pour M. Bussière de la CAQ. J'ai plusieurs questions, mais je vais me concentrer sur le contexte de pénurie de main-d'œuvre. On sait que c'est important faire notre communauté, surtout en santé. On a vu les bris de service cet été à l'hôpital de Maniwaki. Mais comment pouvez-vous faire face à cette pénurie avec des projets de loi comme la loi 21 qui est si divisif et qui fait peur justement à l'immigration et aux communautés qui nous quittent, s'en vont vers l'Ontario en santé, en éducation. On a vu même une professeure être enlevée de son poste de professeur à Chelsea. J'étais là, je m'en souviens très bien, j'étais à la manif à votre bureau. Et en plus, avec les difficultés que vous faites aux travailleurs de la santé et aux professionnels lors de négociations. Donc, vous avez les communautés minoritaires.
Donc, quelle est la question?
C'est ça, en contexte de pénurie de main-d'œuvre, comment ça vous mettez des lois comme projet loi 21 et ne pas respecter les conventions collectives en obligeant du temps supplémentaire obligatoire?
Merci.
Votre question est bien plus, comment on va régler la question sur la main-d'œuvre? C'est bien ça?
Exactement, mais bon, avec une contradiction comme la loi 21.
La main-d'œuvre, là, ça se règle de différentes façons. L'immigration ne règle pas tout. Et bien sûr, l'immigration, vous savez, on a déjà une situation au Québec où est-ce qu'il y a une pénurie de logements. Donc, on veut s'assurer, premièrement, on a 50 000 immigrants qui nous arrivent par année, et on veut s'assurer qu'ils soient bien intégrés, qu'on les accompagne dès le début, dès leur arrivée, en ce qu'ils apprennent le français, et on les accompagne jusqu'à se trouver du travail. Et la preuve est, quand on est arrivé au pouvoir, il y avait 15% de chômeurs parmi les immigrants à Montréal. Deuxièmement, pour nos aînés, pour les ramener au travail, on va donner un crédit d'impôt. En plus, maintenant, ils vont avoir la possibilité de ne pas contribuer au régime des rentes du Québec. Et c'est important, cette économie-là, pour eux.
Donc, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait pour cette question-là. C'est maintenant à M. Raphaël Berry d'adresser la question au candidat ou à la candidate de son choix.
Je vais donner une petite pause à M. Bussière, mais une toute petite. Ma première question va être pour Mme Green. J'ai beaucoup de respect pour elle et elle le sait. Je lui témoigne pas mal tout le temps. Là. Par contre, ce que je lui demande aujourd'hui, elle est candidate du Parti libéral du Québec. Il y a eu la réforme Barrette, puis ça a fait mal. On est à Messine, dans la vallée de la Gatineau. Comment est-ce que vous pouvez défendre ce qui s'est passé avec les libéraux par le passé aujourd'hui?
C'est tellement important d'être capable d'expliquer la centralisation. Quand la réforme Barrette était proposée, c'est parce que le gouvernement libéral d'antan a eu la consigne qu'il n'y aura pas de prêt d'argent si le gouvernement ne mettait pas de l'ordre dans ses livres. Alors, il n'y avait aucunement une possibilité de continuer de recevoir les prêts. Alors, le gouvernement a dû couper. Et oui, ça a fait mal, mais je pense qu'on a renfloué les coffres. Et quand, en 2018, le gouvernement CAQ a profité de tout cet argent qui a été profité. Quand j'étais mairesse, ça a fait mal à des municipalités. Il y avait des coupeurs, il y avait des groupes communautaires qui ont perdu de l'argent, mais c'était pour mettre de l'ordre et de ramener le budget dans le noir.
Madame Carol Green, sauvez-vous pas trop loin. C'est à vous maintenant d'adresser une question au candidat ou à la candidate de votre choix.
J'aimerais demander à M. Bussière, il y a eu 3 inondations de la rivière de Serre dans 5 ans. Sur 5 ans, le gouvernement libéral précédent avait choisi un terrain pour la reconstruction du foyer Père Guinard. Il n'y a rien qui a été fait sur ces dernières 4 ans. Maintenant, dans les derniers mois, on vient de connaître que le terrain est finalement choisi, puis c'est le même terrain qui a été choisi par le gouvernement libéral. Mais en ce temps, les personnes âgées ont dû être déplacées 3 fois. Et pour moi, c'est pas acceptable. On a seulement maintenant une pancarte sur le terrain qui annonce le site, mais 4 ans d'inactivité. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Et surtout, expliquer ça à des personnes âgées qui sont touchées par ça.
Parfaitement d'accord, Madame Green. Le Parti libéral le savait depuis très longtemps que cet immeuble-là était construit dans une zone inondable et ça vous a pris 30 ans à vous réveiller. Nous, on est en voie de le régler. À l'intérieur d'un mandat, on est déjà très avancé. D'ailleurs, les plans et devis seront complétés vers la mi-octobre et sortir en appel d'offres pour le début de construction au printemps, puis vous osez me dire que vous avez fait du travail durant toutes ces années-là, lorsque la population le demandait depuis des années, Madame Green, j'en aurais honte.
Donc, prochaine question maintenant, Madame Joëlle Jamal, qui a la chance d'adresser une question à la personne de votre choix.
Oui, ben en fait, au Parti conservateur, on a le sort des aînés là qui nous préoccupe beaucoup. On juge qu'une société est jugée à la manière dont elle traite ses aînés. Ma question est pour Monsieur Bussière. Pourquoi le gouvernement actuel, donc la CAQ, refuse de mettre sur pied une commission d'enquête sur les morts de la COVID-19 dans les CHSLD?
Écoutez, on a traversé une pandémie tous ensemble, mondialement. Et ça n'a pas été évident. Je pense pas que vous dites que on a fait exprès pour laisser mourir des gens. Il y a eu des enquêtes, il y en a eu. Il y a eu depuis, regardez là. Est-ce qu'on va commencer à payer pour d'autres enquêtes lorsqu'il y a déjà eu une enquête interne à 2 reprises dans 2 groupes différents? C'est clair. Écoutez, là, il est arrivé différents facteurs. Premièrement, tous ces gens-là étaient réunis sous un seul toit, des gens qui étaient affaiblis déjà. Hein, vous savez que quand on rentre dans ces immeubles-là, c'est surtout notre dernière demeure et ces gens-là sont vulnérables. Les gens qui sont revenus de vacances et qui sont rentrés peut-être voir des parents, peut-être des employés qui sont revenus et qui sont rentrés à l'intérieur et qu'on s'est retrouvés avec la COVID un peu partout, mais ça n'a jamais été fait intentionnellement.
La minute est complétée. Madame, donc là, tout le monde a eu la chance de poser une première question au candidat ou à la personne de son choix. Madame Laura Vallos, pour votre deuxième et dernière question à la personne de votre choix.
Oui, moi, dans cette campagne, qu'est-ce qui me préoccupe? Bon, on a parlé de l'environnement, d'une action de la CAQ, mais en santé. C'est ma question à M. Bussière. Selon vous, votre conception, c'est pour régler le problème des listes d'attente en santé, c'est passé par le privé. Moi, ça m'inquiète énormément d'entendre ce genre de discours. Ma question concrètement, est-ce que ça ne vous inquiète pas de croire que par utiliser nos fonds publics pour financer des solutions dans le privé, ça ne va pas plus, encore plus affaiblir notre système de santé, encore plus faire fuir nos professionnels de santé, les infirmières, vers ce système à double vitesse et encore plus augmenter l'inéquité d'accès aux communautés, personnes plus vulnérables? Donc, moi, par cette solution, tout passe par le privé, ça ne va pas plus affaiblir notre système de santé publique?
Je peux répondre? Bon. Écoutez, madame, premièrement, là, on va utiliser les deux, hein. Vous savez que depuis la pandémie, il y a eu un nombre élevé de reports de chirurgie. Il y en avait déjà avant même notre arrivée des retards, même dans le temps des libéraux, plus de 100 000. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'aider au système public à rattraper les chirurgies. Et ce que le privé va faire va être des petites chirurgies. Donc, ça va venir diminuer le nombre de chirurgies en attente et ça permet aux deux systèmes de bien fonctionner. C'est fait pour réduire les chirurgies, contribuer à être capable de sauver des vies. Je pense que c'est une bonne action.
Madame Green, c'est maintenant à vous d'adresser une autre question à la personne de votre choix.
Merci. Monsieur Bussard, j'ai vraiment besoin de comprendre votre position sur le déménagement de la direction de Sopfeu. Je comprends pas. Dans les deux dernier mandat, le libéral, le Parti libéral, le Parti québécois a travaillé pour que ça soit pas déménagé de Maniwaki, du comté de Gatineau, en Abitibi. S'il vous plaît, m'expliquer pourquoi il y avait une pétition faite par les citoyens, citoyennes d'ici, mais vous l'avez pas amené dans l'Assemblée nationale. C'était M. André Fortin du comté de Pontiac qui a dû amener la pétition. Est-ce qu'on n'est pas élu pour représenter les gens de notre comté? Alors, je demande vraiment juste pour comprendre pourquoi vous avez laissé partir le Sopfeu de Maniwaki.
Pour vous répondre, Mme Green, premièrement, je n'ai pas refuser de déposer la pétition. Mais la pétition ne respectait pas les règles. Vous savez qu'il y a des règles, il y a des règles partout dans le monde. Maintenant, André Fortin a bien tenté de la déposer tout au début, et c'était refusé. Donc, ils ont dû refaire la pétition, et vous le savez comme moi, parce que c'est juste que vous voulez l'emmener le sujet ce soir, là. Mais vous le savez comme moi, qu'ils ont dû reprendre, et je leur avais proposé des accompagnés pour leur dire comment le faire correctement, tel que les règles sont. Maintenant, si les libéraux ne respectent pas les règles, c'est pas mon problème. Maintenant, quand vous parlez de la Sopfeu, il n'y a pas eu de perte d'emploi, ma chère Mme Green. Il y en a eu même 3 nouveaux de créés. Et maintenant, au niveau des cadres supérieurs, contrairement à avant qu'il y en avait 4, aujourd'hui, il y en a 5. Donc, il n'y a pas eu de perte globalement. Il y a même eu un gain. Et d'ailleurs, il y a des discussions avec la MRC présentement.
Désolé, le temps est imparti, le temps est terminé, mais c'est à vous de continuer le droit de parole, M. Bussière, là, pour poser une question à la personne de votre choix.
Oui. Bon, Mme Green, tantôt, on a parlé de la réforme Barrette et toute cette centralisation qui n'est pas simplement affecter le système de santé, mais tout le système, mais tout ça dans le but. Le Parti libéral voulait tellement avoir un surplus. Oui, ils en ont eu un surplus de 4,5 milliards, mais sur le dos de l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Ça, c'est pas une façon de gérer, je peux vous le dire. Maintenant, il y a eu de nombreuses pertes d'emplois dans la vallée, et c'était une des MRC les plus dévitalisées. Comment est-ce qu'un parti a le courage de faire ça? Et qu'est-ce que vous allez faire pour remédier à ce que votre parti a fait il y a plusieurs années passées d'avoir fait perdre plus de 300 emplois?
Comme j'ai expliqué, il y avait une raison pour la centralisation, puis on est maintenant dans une position où on peut renverser ça, puis on a une charte des régions. Alors, le Parti libéral veut reconnaître la spécificité de chaque région. Il y aura des décisions prises dans la région, pour la région. Alors, oui, on peut toujours regarder en arrière, par le rétroviseur, mais on veut aller de l'avant, on veut regarder vers le futur, puis on a laissé de l'argent dans les coffres. Alors, le CAQ a pu passer à travers la pandémie avec l'argent que le Parti libéral a pu mettre, oui, dans le budget, mais c'était un budget sain, équilibré, et on n'avait pas de déficit comme avant. C'était nécessaire, les coupures, les centralisations, mais maintenant, c'est une autre ère, puis on veut aller de l'avant pour appuyer les régions.
Joël Jamal, donc Madame Jamal, vous pouvez adresser une question à la personne de votre choix.
Oui, ben en fait, j'aimerais adresser la question à Madame Avalos. J'entends Québec solidaire, je vous entends, dans les médias, on annonce beaucoup de promesses. En fait, c'est de où que vous comptez aller chercher cet argent-là?
Les cadeaux que vous donnez. Oui, merci beaucoup pour votre question, Madame Jamal. En fait, je suis très fière de vous annoncer que ce matin, dans les médias comme la presse, ça a été révélé par consensus que c'est nous, Québec solidaire, le seul des cinq partis, sur la scène nationale de cette campagne, à avoir montré un cadre financier solide. Donc nous, on est allé voir réellement où on va aller chercher de l'argent. Ça vient pas des nuages, comme on aime nous mettre cette étiquette. On va aller chercher l'argent en taxant les 5 % de notre société qui peuvent contribuer davantage. Par exemple, après le premier 1 million, on pense vraiment qu'à Québec solidaire, c'est une question de justice. Si après avoir comme bénéficiaire individu, avoir plus que 1 million, vous êtes capable de contribuer pour maintenir cette équité et cet équilibre de société. On veut aussi aller chercher les grandes compagnies à plus de 500 employés et les grandes institutions financières et les grandes multinationales comme les Amazon puis Netflix.
Monsieur Raphaël Derry, donc, vous pouvez poser une question à la personne de votre choix.
En fait, je vais peut-être vous étonner, je vais quand même le mentionner pour M. Bussière. Moi, je considère pas que c'est une catastrophe les quatre dernières années avec vous. Par exemple, je vais voter pour le Parti québécois, inquiétez-vous pas. Je suis quand même d'avis que le départ du siège social de la Sopfeu, ça a fait mal à la vallée de la Gatineau. Et j'ai beaucoup de mal à acheter l'idée qu'on a eu des gains d'emploi ici avec la perte d'un siège social. Ça me fait penser à quand le PDG d'Air Canada nous dit que le siège social d'Air Canada est à Montréal puis qu'il n'y a pas eu de perte d'emploi, alors qu'on sait très bien que c'est à Toronto que tout se prend comme décision. Moi, la réflexion que j'ai eue, c'est la députée de La Violette Saint-Maurice, qui est une caquiste, Marie-Louise Tardif, une de vos collègues, qui a dit de la CAQ que c'est un parti restrictif et contraignant. Je suis curieux de savoir si vous avez toute la marge de manœuvre pour défendre la vallée de la Gatineau avec la CAQ.
Bien sûr, je l'ai. On l'a, toutes les marges de manœuvre pour défendre la région, et je le fais très, très bien. D'ailleurs, j'ai la preuve ici, là. Il y a un gain d'emploi. Et d'ailleurs, hein, vous dites que vous le croyez pas, vous pouvez le vérifier d'ailleurs si vous voulez. Hein. Il y a aussi un directeur de prévention et de support aux communautés pour l'ensemble du Québec qui relève de la vallée de la Gatineau. C'est pas un bon gain. Et d'ailleurs, on va construire un entrepôt et on va rénover l'ensemble des bâtiments sur le terrain. Merci de m'avoir permis de me reprendre et de continuer de compléter. Mais vous savez, il y a eu plus de 500 millions qui ont été investis dans le comté. C'est un record de tous les temps. Et si, comme les libéraux disent que je n'ai rien fait, je me demande ce qu'ils ont fait si moi j'ai rien fait avec 500 millions.
C'est maintenant ce qui complète la portion des questions entre les candidats. Maintenant, portion des questions du public. Et cette première question, ben écoutez, on pouvait pas vraiment passer à côté. C'est intéressant, quelqu'un a soulevé la question chez nos citoyens. On parle de la COVID-19, la pandémie qui a ébranlé nos vies durant les dernières années. Et la personne dit que on est toujours, même si on ne parle pas, si moins présent la COVID-19, la pandémie est toujours présente et continue d'affecter donc les entreprises. Qu'est-ce que vous vous engagez à faire si vous êtes élu par rapport à la gestion de la pandémie? C'est la question. Qu'est-ce qu'on fait pour la gestion de la pandémie qui continue à avoir des effets sur notre société? Madame Joëlle Jamal.
Oui, ben en fait, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment avoir une santé publique qui est indépendante du politique. On a vu qu'il y a des entreprises durant la pandémie qui ont été fermées là parce que le Monsieur Legault en a décidé ainsi, avec tous les dommages que ça a entraîné. Nous, on veut vraiment une santé publique qui est indépendante, qui va faire des recommandations basées sur des faits scientifiques. Je donne juste l'exemple du couvre-feu qui a affecté aussi beaucoup d'entreprises. Donc, je donne l'exemple toujours là de quelqu'un qui commet un méfait, qui vend devant le juge, le juge va lui enlever ses libertés si jamais il y a des preuves solides là. Donc nous on nous a enlevé nos libertés, les libertés des entrepreneurs sans aucune preuve solide. Et ça, je trouve ça déplorable.
C'est toujours cette même question. C'est maintenant à Monsieur Raphaël Derry de répondre. Donc quelle est la gestion que le Parti québécois ferait de la pandémie?
Ben en fait, je serais d'accord sur un petit élément là, sur ce que vient de dire la candidate conservatrice, mais on a besoin d'une santé publique qui soit indépendante du gouvernement. Ça, pour nous, c'est clair. Puis au cours des derniers mois, on a eu l'impression que il y avait beaucoup de décisions qui relevaient davantage du politique que de la santé publique. Puis ça nous a beaucoup préoccupés. Alors ça, c'est une des grandes demandes que l'on fait. Une des grandes différences aussi, c'est qu'il y a eu des périodes d'accalmie entre les vagues, puis comme on a institutionnalisé le mode de gestion avec le temps supplémentaire obligatoire, ben on a du monde qui était à bout de souffle, puis qu'on n'a pas réussi à maintenir dans le réseau public. Alors ça, peut-être profiter des temps d'accalmie pour slacker, là, pour modérer sur le temps supplémentaire obligatoire, par exemple.
C'est maintenant à Madame Green de répondre à cette question de la gestion de la pandémie.
Merci. Et moi aussi, je veux un système de santé qui est indépendant du gouvernement. Mais je crois qu'on peut changer la façon qu'on donne des services à nos aînés. Alors, le Parti libéral pense que la meilleure maison pour les aînés, c'est chez eux. Et on veut donner un 2 000 $ pour chaque personne de 70 ans et plus pour qu'ils puissent rester à la maison. Alors, ce sera une allocation annuelle. Il y aura des unités de soins intensifs qui peuvent visiter les aînés dans le domicile parce qu'on sait que les aînés étaient les plus vulnérables avec le COVID. Aussi, on veut financer dans une façon plus prévisible les prochains aidants. Mais je crois qu'il faut regarder aussi les ratios personnels patients, alors les conditions de travail.
Madame, Monsieur Robert Bussière, maintenant, sur cette question de la gestion de la pandémie.
C'est bien sur la pandémie, hein?
Oui, c'est bien sur la pandémie.
Et non pas sur les aînés.
C'est sur la pandémie, okay. La question.
Écoutez, la pandémie, premièrement, là, est pas terminée. Mais le pire de la période est maintenant passé. Vous savez qu'une pandémie, généralement, si vous faites la lecture sur tous les pandémies mondiales qui ont passé, ça dure de 8 à 10 ans. Plus que ça va aller, plus que ça va diminuer de force. Et puis, ce qu'on va devoir continuer à faire, c'est de vivre et de continuer à prendre des précautions, de se protéger le plus possible, mais d'apprendre à vivre avec la COVID. Donc, je pense que la meilleure des choses, ça va être de chacun de nous faire des efforts. Il y a des gens qui sont encore très nerveux, vous savez. Il y a beaucoup de gens qui sortent pas beaucoup encore, là. Mais il va falloir continuer à se protéger individuellement et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter d'avoir le virus.
Madame Laura Vallos, maintenant, sur cette gestion de la pandémie, si vous êtes élue.
Oui, définitivement, nous, à Québec solidaire, on a été en faveur des mesures de santé publique pour protéger les plus vulnérables, parce que nous, on croit vraiment à ce bien collectif et de ce sacrifice pour les plus vulnérables. Donc, on a été satisfaits. Et moi, personnellement, j'ai vu dans des pays comme aux États-Unis, au Guatemala, où j'ai de la famille qui sont décédés parce que, justement, on n'a pas mis en place des protections de santé publique. Mais on a quand même été très conscients qu'il y a eu des abus de pouvoir et qu'il y a eu une fragilisation de notre démocratie et de la science. Hein? Puis je dénonce publiquement les prises de position du Parti conservateur qui est en train de canaliser la frustration et le tort et la douleur que les gens ont vécu pour monter un mouvement qui veut justement encore plus fragiliser notre démocratie et notre science. Donc concrètement, nous à Québec solidaire, on rendrait le directeur de santé publique indépendant pour que ce soit pas une nomination politique, mais bien une nomination indépendante pour maintenir notre science et nos institutions indépendantes.
Et prochaine question du public qui concerne nos agriculteurs. En fait, la question est bien simple, mais ça ouvre la porte à différentes pistes de solutions. C'est qu'est-ce qu'on compte faire justement pour épauler nos agriculteurs? Et je pourrais en rajouter en disant que les défis sont nombreux et qu'ils contrôlent peut-être peu les conditions dans lesquelles ils œuvrent, le prix, les conditions météorologiques. Il y a beaucoup d'éléments qu'ils ne contrôlent pas. Ceci étant dit, la question est qu'est-ce qu'on prévoit faire si vous êtes porté au pouvoir pour aider nos agriculteurs ici même dans la région, Monsieur Derry?
Bien, en fait, concrètement, dans un contexte où... Au Parti québécois, on est indépendantiste, mais on est pour la souveraineté alimentaire également. Et ça veut dire qu'on doit encourager les initiatives locales d'achat chez nous. On veut promouvoir, je pense, à des agriculteurs. Moi, je suis allé cet été à Montcerf voir la fromagerie La Cabriole, mais on doit encourager ce type de producteurs-là. Je suis moi-même les Derry à Montcerf. C'est une famille agroforestière, donc on vit... à la fois de l'agriculture et de l'industrie forestière, mais on doit encourager la plupart des initiatives là qui sont faites pour promouvoir l'agriculture, puis l'achat chez nous, éviter les exportations. On sait que ça perd de la qualité de la nourriture là, quand elle vient de l'extérieur, donc quand on est capable de faire de la production chez nous de qualité, puis c'est le cas, ben on les encourage. Puis là-dessus, je veux encourager aussi le marché de solidarité de l'Outaouais, qui est une coopérative qui permet de faciliter la distribution des produits alimentaires. C'est le type d'initiative que je veux encourager.
Merci, Monsieur Derry. Madame Jamal, maintenant, qu'est-ce que vous proposez de faire pour venir en aide à nos agriculteurs?
Oui, ben en fait, nous, notre plateforme promouvoit beaucoup l'autonomie. Donc, on veut que les gens puissent s'épanouir, en fait, avec leur terre. Je parlais justement avec un agriculteur qui me racontait que le prix du carburant fait très mal. Ce que le gouvernement impose aussi prochainement, mais ça, faut que j'aille voir exactement... plus en détail, là, c'est que le gouvernement, ce qu'il me racontait, c'est que le gouvernement veut décider qu'est-ce qu'il fait avec ses terres à lui. Donc ça, je trouve ça, il faut vraiment que ce soit autonome. Il faut que chaque agriculteur puisse faire qu'il soit libre de faire là chez lui.
Maintenant, Monsieur Robert Bussière, donc qu'est-ce que vous prévoyez faire pour aider nos agriculteurs?
Écoutez, vous savez qu'on a créé le panier bleu pour inciter les gens à faire l'achat chez nous. C'est très important et d'ailleurs, ça fonctionne. Et de plus, vous savez qu'on veut donner l'exemple pour nos CHSLD, qui vont devenir des maisons des aînés dans certains cas, et nos hôpitaux, d'acheter chez nous, provenant de nos agriculteurs chez nous, ici au Québec, pour lancer un exemple de comment ça devrait se faire. Et aussi, il y a un crédit qui est, pas un crédit, mais une aide financière pour la mise en place de serres, pour être capable de faire de l'agriculture, finalement, à l'année. Et une aide financière qui couvre jusqu'à 70% et un tarif plus bas pour ces gens-là qui font de l'agriculture en serre. Donc, avec tout ça, je pense que ça devrait aider énormément à nos agriculteurs.
Madame Green, maintenant, qu'est-ce qu'on propose pour aider nos agriculteurs?
Je pense que la priorité, c'est de regarder comment on peut faire l'agriculture dans une autre façon en tenant compte des changements climatiques. On n'aura pas les fruits, les légumes de Californie ou d'ailleurs plus loin avec tous les changements climatiques. Il faut trouver une façon d'assurer une sécurité alimentaire. J'entends beaucoup quand je visite les marchés agricoles ici dans la vallée, le besoin pour les logements, pour les travailleurs saisonniers. Alors, sans les changements dans les règlements, c'est très difficile de bâtir un logement pour accueillir les travailleurs saisonniers. Et je regarde la relève. Alors, comment est-ce que les jeunes peuvent apprendre. Il y a le projet dans Ange Gardien. Alors, il peut apprendre l'agriculture avec des mentorats.
Madame Laura Avalos de répondre sur cette question des agriculteurs.
Oui, vraiment, c'est tellement important. Vous jouez un rôle crucial pour notre sécurité alimentaire. Et moi, j'apprécie énormément acheter vos produits, surtout appuyer une nouvelle génération d'agriculteurs qui veulent avoir cette harmonie entre notre production alimentaire et la terre. Donc, nous, à Québec solaire, on veut vraiment favoriser ce nouveau modèle de agriculture biologique, organique, et avoir, par exemple, on a annoncé cette semaine une politique zéro gaspillage où on met de l'avant la coopération entre la ville et la campagne, justement pour que tous les produits, ça soit un cercle qui puisse appuyer des économies sociales, qui puisse faire appuyer des coopératives, d'agriculteurs, favoriser cette intégration du rural, des gens de l'urbain qui veulent aller contribuer. Donc, vraiment, on a vu ces modèles dans d'autres pays comme au Brésil et ça marche et c'est par là qu'on devrait aller.
Merci beaucoup. Dernière portion, en fait, dernière question du public. C'est en lien, puis ça c'est un aspect qui touche beaucoup de gens, monsieur, madame, tout le monde, les entrepreneurs également. C'est la question de l'Internet haute vitesse. En fait, on a un citoyen qui nous dit que l'Internet n'est pas disponible partout. Encore ce matin, on avait un article sur nos ondes qui en parlait. Il y a quelques municipalités, trois de la vallée, qui sont 100% branchées, plusieurs qui sont en voie de l'être, mais quelques-unes, dont Denombe, qui a seulement une résidence sur cinq, qui est actuellement branchée. Et là, c'est en fonction des visées du gouvernement, là, parce qu'il y a déjà des résidences qui sont exclues d'emblée de ces branchements-là. Donc, la question étant celle-ci, même en étant des endroits où il est facile de faire des branchements, on n'a pas nécessairement l'Internet. Donc, en fait, je vais reformuler peut-être un petit peu la question. Si vous êtes élu, est-ce qu'on poursuit dans la même veine? Est-ce qu'on complète les branchements? Est-ce qu'on change l'approche? Est-ce qu'on rajoute des foyers? Quelle est votre vision par rapport à ça? Et c'est Mme Joëlle Jamal qui aura le premier droit de réponse.
Oui, ben absolument. Il y a des citoyens qui m'ont approché, qui vivent un petit peu plus au nord là, de Montée de la Source, puis ils me disent, mais on n'a pas accès à Internet à haute vitesse. Puis j'étais vraiment étonnée, là, parce qu'on est quoi, à 10 minutes, puis un petit peu moins là, du centre-ville de Gatineau, donc ça n'a pas de bon sens. Donc, faut les brancher au plus vite.
Madame Green, maintenant.
Merci. Oui, c'est tellement important l'Internet haute vitesse. Surtout, on a eu l'expérience durant la pandémie pour les étudiants, pour les travailleuses à la maison. Moi, je crois, j'ai beaucoup discuté avec des compagnies pour desservir les maisons au flanc. Alors, il y a toujours une maison ou deux au bout d'un chemin qui ne reçoit pas le service. Alors, il y a une façon de faire pousser l'Internet, le système vers la fin de ces chemins, parce que pour les compagnies, souvent, ça vaut pas la peine financièrement pour qu'ils l'amènent au bout du chemin. Alors, il faut regarder d'autres technologies. Mais aussi, j'aimerais regarder qu'on fasse des centres de travail. Ce serait des lieux partagés dans le rural comme urbain où les personnes peuvent aller travailler ensemble s'ils ont besoin.
Oh, désolé. Donc, c'est maintenant Madame Monsieur Robert Bussière, désolé, Monsieur Robert Bussière, de répondre à cette question sur l'Internet, désolé, sur l'Internet haute vitesse.
Pas de problème. Effectivement, nous devons continuer parce que nous sommes le premier gouvernement à avoir mis en place une telle façon de faire qu'on va régler l'Internet haute vitesse partout au Québec. Maintenant, dites-vous une chose, il y a des contrats de signer, il y a un temps pour le terminer, on n'est pas encore rendu à la fin septembre, mais pour tous ceux et celles, premièrement, ce service-là est disponible et sera disponible à tous ceux et celles qui ont de l'électricité, que ce soit un chalet, une résidence, un commerce ou quoi que ce soit. Donc, entre-temps, Starlink est là et on a embauché du personnel supplémentaire pour accélérer les réponses. Et oui, on doit continuer ensemble et on va y arriver. Donc, j'en suis très fier parce que notre prochaine étape, ça va être le cellulaire.
Madame Laura Avalos, sur cette question de l'Internet, est-ce qu'on continue dans la même veine, on change d'approche, quelle est votre vision?
Oui, c'était vraiment choquant voir sur vos, justement l'article sur vos zones de que ce n'est pas que malheureusement la CAQ ne semble pas pouvoir tenir sa promesse que d'ici le 30 septembre, on est le 21, donc il reste 9 jours pour la CAQ de venir à terme avec sa promesse d'avoir 100% du réseau. On a su que seulement 3 sur 10 comtés ici de municipalités qui ont 100% accès à l'Internet. Nous, à Québec solidaire, on voit l'accès à l'Internet haute vitesse, ce n'est plus un luxe en 2022. C'est un droit humain, c'est un droit fondamental pour la qualité de vie. Durant la pandémie, on a vu comment c'était important d'avoir accès à l'information pour les étudiants, pour qu'ils puissent faire leurs recherches, pour le télétravail. Donc, tout ça, c'est important. Et nous, à Québec solaire, on s'engage, pour répondre à votre question, Félix-Antoine, oui, on s'engage à assurer la continuité et 100% des Vals Gatinois et de la circonscription de Gatineau à se brancher à l'Internet haute vitesse.
Et M. Derry, votre position sur la question?
En fait, il y a du progrès, on l'observe. Mais alors oui, on va continuer. Je suis pas surpris que tout le monde dise oui, on va continuer là. Ce que j'ai envie de vous dire, par contre, c'est qu'on a été témoin d'une quasi-injustice dans la vallée de la Gatineau sur ce dossier-là. Et puis, je voulais démontrer à quel point c'est important d'avoir des élus qui sont capables de se battre, puis de se lever quand il y a des injustices. Puis là, ici, c'est la préfète Chantal Lamarche. Vous allez penser que j'ai des actions avec la cabriole à Montcerf, c'est pas le cas. Mais je suis fier de Montcerf, là. Mais vous savez, il était question là que l'axe le plus densifié de la vallée de la Gatineau ait pas accès à ce service-là, soit pas branché. Et puis on allait brancher un secteur avec un peu plus de chalets où ça donnait que le PDG de Bell se retrouvait dans le coin de lac Sainte-Marie. Alors là, on a pu corriger ça grâce à la force de caractère de Chantal Lamarche que l'on connaît bien là-dessus. Et puis, moi, c'est le type d'élu que j'aimerais être aussi pour la vallée.
Écoutez, on arrive maintenant à la période que j'appelle période libre, en fait. On pourrait l'appeler conclusion. C'est le dernier droit de parole que vous avez ce soir. Et c'est un 2 minutes libre. Je n'impose pas de questions. Vous pouvez y aller spontanément, comme le cœur vous en dit. Vous avez 2 minutes, donc, pour clore ce débat. Madame Carol Green, c'est à vous.
Merci. Alors, j'aimerais commencer en remerciant CHEA pour l'opportunité qu'on présente nos idées et qu'on demande de clarification de certains entre nous. Merci à mes collègues. On commence à se connaître. Et merci à les participants ici et aussi à domicile. Moi, je sens qu'il y a un cri de cœur des aînés, des jeunes. Il y a un cri de cœur des médecins, des infirmières, des PME. Des artistes aussi. Je pense qu'il y a tellement de besoins dans l'Outaouais, dans le comté de Gatineau. On a Équité Outaouais qui a démontré un manque de financement et moi, je veux être la personne qui amène les besoins à l'Assemblée nationale de votre part. Merci.
Merci, Madame Green. Joël Jamal, la parole est à vous.
Oui, donc merci à tous. Merci Madame Green, merci le CHGA Maniwaki, merci à mes collègues ici et à tous ceux qui ont posé des questions et qui nous écoutent. Je l'ai pas dit au tout début là de la présentation, mais moi je me suis présentée en politique parce que je voyais beaucoup de détresse chez les gens. Chez mes patients en fait, hein, parce que je suis à la pharmacie quasiment tout le temps pour ceux qui me connaissent là. Donc autant chez les personnes âgées beaucoup de détresse, autant chez les jeunes, j'ai jamais servi autant d'antidépresseurs à des jeunes adolescents. Donc je trouve que la situation là est devenue intolérable. Et c'est pour ça que je me lance en politique. Surtout que je vois aussi qu'il y a des personnes qui n'arrivent plus à payer leurs médicaments à la fin du mois. Donc, avec la PCQ, là, Avec le PCQ, en fait, on vise une plus grande autonomie de tous et un plus grand partage des richesses et que l'État se serre la ceinture plutôt que ce soit le... c'est l'État qui se serre la ceinture plutôt que ce soit les gens. On veut, en fait, que l'État travaille pour les gens et non pas le contraire. Donc, avec notre slogan « Libre chez nous », on vise la liberté et on tient cette liberté-là à nos droits individuels en rendant les Québécois autonomes et responsables aussi. On veut aussi surtout l'autonomie de la nation. Donc, le Québec est une nation à part entière qui évolue et gagne à grandir au sein du Canada en y affirmant sa langue et sa culture. Elle doit toutefois viser l'autonomie optimale de ses pouvoirs et prérogatives constitutionnelles pour y parvenir. On vise aussi l'économie de marché, donc on veut qu'il y ait une concurrence saine qui arrive. On veut pas que le gouvernement se met le nez là dans les affaires de tout le monde. Donc on veut plus de liberté.
Merci beaucoup, Monsieur Robert Bussière. La conclusion.
Merci à CAGA d'avoir organisé ce débat. Merci à vous tous d'être ici avec nous ce soir. Et puis bonne chance à tous les candidats. Il y a des élections qui s'en viennent, donc vote par anticipation, sortez. Il est important d'aller voter. Et les élections officielles sont le 3 octobre. Allez voter et votez d'une façon importante. Mais je vous invite à continuer avec l'homme qui vous sert depuis 4 ans. Votez Robert Bussière, votez pour la CAQ. Merci à vous. Bonne soirée. Bon retour à la maison.
Merci beaucoup. Et écoutez, on va continuer et poursuivre avec le candidat du Parti québécois, M. Raphaël Derry.
Ce soir, j'ai eu l'occasion de pouvoir vous expliquer un peu comment je percevais les choses, comment le Parti québécois percevait les choses. Ce que vous avez pu entendre, c'est un homme qui croit forcément à la politique, qui croit à ce que ça peut servir, puis qui a un grand respect pour la fonction de député. Je veux saluer mes collègues candidats, puis je veux saluer le député sortant, M. Bussière. C'est exigeant la politique, mais quand on le fait forcément parce qu'on a des convictions, puis parce qu'on veut les partager, puis parce qu'on aime l'endroit qu'on veut représenter. La vallée de la Gatineau, elle est la 102e communauté la plus dévitalisée au Québec sur 104. C'est important qu'on s'y mette, qu'on soit solidaire. Puis c'est pas tout que de miser sur nos défauts, sur les choses qu'on doit travailler. Il faut aussi miser sur nos forces. Puis la vallée de la Gatineau a été capable de démontrer à travers l'histoire qu'elle est capable de solidarité, qu'elle est capable de tisser des liens puis de se serrer les coudes. Alors mon objectif, ce serait de pouvoir être de ce type d'élu, un peu à l'image de vos élus municipaux. Je pense à Mme Fortin notamment, mais à Mme Lamarche, la préfète. Mais être comme vos élus municipaux qui sont capables présentement de mettre en évidence les lacunes, mais de se mobiliser, de mobiliser les populations pour pouvoir développer la vallée de la Gatineau comme il faut. Alors, le Parti québécois, c'est un parti qui est régionaliste, c'est un parti qui a fait beaucoup dans l'histoire pour la région de l'Outaouais, même quand on n'avait pas de députés ici. On misait beaucoup sur le développement de la région, puis c'est un parti qui est régionaliste. Un des engagements que j'ai, c'est celui de faire la maison de la culture de la vallée de la Gatineau, notamment. Je pense que c'est essentiel de mettre ça en évidence. Puis on veut faire un plan québécois des infrastructures, donc notre régionalisé, donc à 70 milliards, quelque chose de régionalisé où on décentralise les pouvoirs, les décisions vers les régions. Alors, tout ça pour vous dire qu'on a suffisamment confiance en la population puis aux élus locaux pour pouvoir leur donner du pouvoir.
Et le mot de la fin, c'est Madame Laura Avalos de Québec solidaire.
Bien, en 2018, les gens d'ici, du comté de Gatineau, ont voulu du changement. Puis je les comprends donc. On voulait tous du changement. Donc, la plupart ont voté pour la CAQ et pour M. Bussière. Puis la CAQ et M. Bussière nous offrent de « continuons ». Bien, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, c'est que « continuons à payer des loyers trop chers, continuons à pas avoir de médecin de famille, à manquer d'infirmières, à faire des longues listes dans les urgences, continuons à manquer de main d'œuvre, continuons à manquer de place en garderie, continuons à polluer l'environnement et permettre des permis d'exploration, possiblement d'extraction minière dans notre région, comme on est en train de voir à Papineau. » Et je salue cette mobilisation citoyenne. on vous surveille de près et je partage la position de la préfète de la MRC de la Vallée de Gatineau, qui elle aussi est très concernée par ces projets miniers. Donc, à Québec solaire, on vous appuie. Alors, nous, concrètement, à Québec solaire, on vous propose de ne pas continuer comme ça. Je nous propose de changer de vision, de changer d'air. On a souvent entendu ça même par mes collègues libéraux, de changer d'air. Eh bien, moi, je suis d'accord. On devrait élire une nouvelle équipe, une équipe courageuse et motivée par des convictions profondes de faire face à la crise du coût de la vie, à la crise climatique, faire une réelle transition écologique. Et moi, je crois vraiment que nous avons ce rôle à jouer et je veux remercier la radio CRGA et en particulier ses journalistes pour votre travail de qualité que vous faites. Vous jouez un rôle important pour nous tenir, nous, les élus, redevables de nos actions et vous participez à cette démocratie saine. Donc, merci pour ce travail que vous faites. Vous doutez encore de voter pour moi, pour Québec solidaire? Ben, je vous mentionne qu'une petite députée solidaire que personne connaissait, comme Émilie Lézard-Terrien de Rouyn-Noranda, a mis sur l'enjeu national et fait un enjeu dans cette élection, la contamination de sa communauté par la pollution de l'air par la fonderie Horn. Donc, une députée solidaire peut faire la différence. Donc, je vous invite à voter pour moi, pour Québec solidaire. Je vous ai démontré que je suis engagée pour vraiment vous défendre et bien vous représenter et faire du changement ici, à la veille.
Merci beaucoup à Madame Avalos. Merci à tous les candidats de s'être prêtés au jeu. C'est un exercice qui est pas toujours facile, mais qui est essentiel pour une démocratie saine, pour donner aux gens une tête avant d'aller voter, pour se faire une idée. Des fois, c'est pas toujours facile. On vous rappelle d'ailleurs que le vote par anticipation, c'est le 25 septembre et 26 septembre. Les bureaux de vote sont ouverts de 9h30 à 20h. Le jour du vote, scrutin le 3 octobre. Encore une fois, les bureaux qui seront ouverts de 9h30 à 20h. Et je vous mentionne déjà, un petit scoop, on a une émission spéciale en soirée pour la soirée des élections. Donc, c'est le 3 octobre en soirée, on va être là. Ça risque de se terminer moins tard là, que les élections municipales qui se sont terminées à 3-4 heures du matin. On le souhaite, du moins, parce que c'est pas facile, mais on sera assurément au rendez-vous. On invite les auditeurs à être de la partie. On vous souhaite bonne chance pour les prochains jours. Merci au public ici, merci aux gens qui nous ont écoutés à la radio ou sur le web. Et ben, je vous dis à la prochaine. Au revoir.